To the Batmobile. Let's go.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Semaine héros sur France Culture et pour ce numéro de Rue des Écoles, nous parlons des super-héros. Oui, oui, des super-héros. Vous allez l'entendre, eux aussi véhiculent des valeurs éducatives. Au programme aussi, retour sur l'actualité non pas de la semaine, mais de l'année avec Marie-Caroline Missire, que l'on retrouve dans quelques secondes. Bonjour Marie-Caroline.
Bonjour Louise.
Et vous nous parlez ?
Et je vais vous parler des héros et des anti-héros de l'éducation nationale.
Et nous saluons les héros de cette émission, attachés de production Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère, Fontani. Vous disposez de 1000 jours pour réécouter cette émission en ligne. Vous pouvez vous abonner au podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez y laisser vos commentaires. Et pour réagir et dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux, un mot-clé, un mot dièse, un hashtag RDE. Et Marie-Caroline Missire, pour les actualités non pas de la semaine, mais de l'année, un retour sur les héros, en tout cas les protagonistes qui ont marqué cette actualité de l'éducation.
Et indubitablement, les héros de cette année qui s'ouvrent et se referment sur des attentats, ce sont d'abord les enseignants, en première ligne de cette actualité douloureuse et en prise avec une réalité complexe. Les minutes de silence organisées au lendemain des attentats de Charlie en janvier, leurs perturbations dans certains établissements, ont mis les enseignants en prise directe avec les failles de notre société que jusqu'ici les pouvoirs publics n'avaient pas réellement mesurées. L'absence de cohésion autour de la notion de laïcité, les tensions et les risques de dérive communautaire dans certains établissements, et la perte, finalement, d'une forme d'horizon commun.
Il faut réexpliquer tous les termes. Qu'est-ce qu'une caricature? Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que le blasphème? En fait, passer d'abord par l'explication des mots, puis laisser les questions se poser, répondre à chacun, prendre le temps de ne jamais s'énerver, même si on est choqué, étonné. Les théories du complot, je suis accablée par cet obscurantisme, mais j'essaye de le démonter comme je peux. Écouter inlassablement, leur montrer le plafond de la chapelle Sixtine, leur dire « est-ce que c'est un blasphème ?» Et puis finalement, quand ils comprennent, il y en a qui me disent « est-ce que les terroristes ils vont casser ça aussi ?» Parce qu'au bout d'un moment, ils sont inquiets aussi. Ils ont peur en temps. Alors, ils ont tous peur. Tous les élèves de France, je pense, ont peur. C'est pas seulement dans les banlieues. Mais les communautés musulmanes ont peur en plus parce qu'ils subissent le racisme très fortement. Je n'ai jamais été autant connectée avec mes collègues. Je ne dors pas depuis une semaine. Je fouille partout sur Internet pour comprendre ce qui est rentré dans leur cerveau pour expliquer tant d'obscurantisme. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a des hussards de la République, comme vous dites, on les appelle nous les Don Quichotte de la République, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'être enfin écoutés, parce qu'on a l'impression que là-haut, on ne nous écoute jamais, alors qu'on brandit tout ça depuis bien longtemps.
Un des témoignages les plus frappants qu'on ait pu entendre cette année, témoignage d'enseignants, Aude de Lombarès, en l'occurrence professeur de français, c'était le 14 janvier dernier, dans Rue des Écoles, des enseignants qui ont eu la lourde tâche de recueillir la parole des élèves après aussi les attentats du 13 novembre. Nous avions organisé une émission dans laquelle nous leur donnions la parole. C'était le 15 novembre dernier. Je vous propose d'écouter une enseignante professeure des écoles, Ange Ansour.
Les enfants ont entendu un mot très violent depuis vendredi, c'est le mot « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre qui ? Où ? Comment ? On va, là, à l'école, et nous, tous, on va à nouveau reprendre l'idée de ce que c'est l'école. C'est une parcelle de la République qui est présente face à tous les élèves. C'est ce lien que nous l'avons amnésié dernièrement. Et demain, dans les classes, il va falloir inventer la manière de le réactiver, de le réanimer, de le réincarner. L'école de la République, demain, est là. Parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas, cette fois-ci, se cacher derrière un paravent, que ce soit les élèves. Ah, c'était les journalistes. Ah, c'était les juifs. Non, là, c'est tout un chacun. Nous tous. Et c'est très anxiogène. Et ça nous met encore plus face aux fondamentaux. Beaucoup plus.
Cette année a donc donné lieu à un sursaut citoyen autour de l'école. révélateur très cru de la déshérence de l'idéal républicain. Et c'est peut-être l'autre héroïne de l'année, l'école laïque et républicaine à qui l'on a beaucoup demandé, incarner rien de moins que l'unité de la nation, repérer les élèves radicalisés, former et sensibiliser à la laïcité, recréer de la cohésion, expliquer les attentats, bref. Tout cela a même donné lieu à de grandes annonces et un plan de mobilisation pour l'école républicaine. 6 mois plus tard, le bilan de ce plan reste mitigé. La réserve citoyenne, par exemple, qui avait enregistré des milliers d'inscriptions, a du mal à franchir la porte des classes. Les formations des personnels à la laïcité se déploient lentement et elles sont surtout à destination des cadres.
Autre sujet, grand sujet de l'année, la réforme du collège, Marie-Caroline.
Débat de société autour de l'école et guerre de tranchées sur le collège. Ce fut donc la grande affaire de cette année. La réforme du collège et l'interdisciplinarité vont-elles définitivement mettre en péril les valeurs de notre civilisation ? Car oui, le débat est allé jusque-là.
Oui.
Une héroïne et un anti-héros dans le feuilleton du printemps, Najat Vallaud-Belkacem dans le rôle de la ministre droite dans ses escarpins et Michel Lussault, président du Conseil national des programmes.
Mathieu, on va l'écouter.
Il y a un effort à faire et nous admettons qu'il y a des passages jargonnants et nous les corrigerons. Nous l'avons d'ailleurs dit dès le départ. S'il y a des choses à corriger, nous les corrigerons.
Ce sera donc plus simple, plus clair, plus lisible.
Plus simple, plus clair, plus lisible, à la fois pour les professionnels que sont les enseignants, mais aussi pour les parents, parce que la question des programmes scolaires, ça n'est pas simplement une question de professionnels. C'est une question qui intéresse tout le monde.
Le texte qui met le feu aux poudres n'est donc ni définitif, ni irrévocable, ni irréversible.
Non, c'est écrit en page 2 de nos programmes. Ce sont des textes provisoires, j'allais dire des textes martyrs. Et de ce point de vue-là, ça marche très bien. Ils sont martyrisés, c'est tant mieux. Nous demandons des critiques, nous demandons des propositions.
Vous êtes vraiment maso, là. Là, vous êtes servi.
Oui, en tout cas, nous sommes servis de la volonté de faire évoluer le texte. Parce que nous pensons que c'est une chose si importante qu'il faut que le texte puisse évoluer. Le texte définitif ne viendra qu'en septembre.
C'était sur Europe 1, le 10 mai 2015, avec Michel Lussault, avec Jean-Pierre El Kabache, un des extraits les plus drôles, mais on a beaucoup entendu Michel Lussault sur tous les médias tout au long de l'année. Jamais on avait autant entendu un membre de la communauté éducative autre qu'un ministre, Marie-Caroline.
Oui, et puis il paraît tout au long de cette séquence incompris, très sûr de lui, et puis surtout un peu seul à la fin. Et puis comme dans tous les drames, il faut bien un deus ex machina. Et c'est Manuel Valls qui a endossé le costume en publiant, au lendemain d'une grève importante, le décret entérinant la réforme du collège. Mine de rien, le front anti-réforme n'est jamais vraiment reparti depuis, même si cette réforme est restée contestée par une partie des enseignants et des parents.
Alors dans la catégorie nouveau héros ou retour de héros, nous avons Bruno Le Maire qui s'est pris au printemps d'une poussée passionnelle pour l'école.
Oui, passion pour le collège et pour les enseignants, une passion toute neuve qui, vous l'aurez remarqué, lui est un peu passée depuis.
On va l'écouter tout de même.
L'école, l'éducation, c'est un combat dont j'ai dit dès 2012, en septembre 2012 très précisément, dans un article consacré aux raisons de la défaite de la droite, que ça devait être la priorité absolue de la droite le jour où elle revenait au pouvoir et que ça nous prendrait 10 ans. Mais mon attention et mon intérêt pour ces questions éducatives, elle date tout simplement du jour où je suis rentré à l'école normale, où j'ai passé mon agrégation et où je suis devenu professeur de français. Donc ça fait maintenant malheureusement un sacré bail.
Et c'était le 13 mai dernier dans Rue des Écoles, Marie-Caroline.
Une passion pour le collège, vous l'entendez, pour les enseignants, qui lui est un petit peu passé depuis, semble-t-il.
Vous parlez bien de Bruno Le Maire. D'autres nouvelles voix se sont fait entendre ou réentendre.
Oui, on est 2 ans avant l'échéance des présidentielles et effectivement, de nouvelles voix, de nouvelles figures se sont ainsi révélées sur les questions scolaires. Bruno Le Maire, qu'on vient d'entendre, et Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, plus tout à fait un jeune premier, mais de vraies convictions et une vision évoquée dans un livre publié quelques jours avant la rentrée, « Mon chemin pour l'école ».
On l'écoute le présenter.
J'ai dit souvent que c'était la mère des réformes. Tout se joue à l'école. Ce livre, c'est le départ d'un débat que je souhaite ouvrir largement avant de mettre au point définitivement mon programme pour l'éducation au cours des prochaines années.
Une vidéo enregistrée par les équipes d'Alain Juppé en septembre 2015.
Ce sont des propositions que ne démentirait pas la ministre. Reste quand même une interrogation, celle des moyens déployés par Alain Juppé.
Et puis, pas d'année sans grosse polémique sur les enseignants, une spécialité du monde éducatif français, Marie-Caroline.
Cette année, nous avons bien sûr eu la réforme du collège, mais nous avons eu aussi affaire au clip bien maladroit du ministère sur la lutte contre le harcèlement à l'école. Réalisé par la journaliste Mélissa Thuriau, il met en scène une enseignante qui tourne le dos à ses élèves alors que l'un d'eux est harcelé par ses camarades.
Et Mélissa Thuriau était invitée du grand journal de Canal+ le 5 novembre dernier.
À juste titre, c'est une profession qui souffre et qui a accumulé des couches de frustration. Arrive cette campagne, en effet, le ministère de l'Éducation nationale se bouge un peu et moi je trouve ça bien, en effet, qu'il puisse rendre et donner des outils à ce personnel éducatif puisqu'il manque d'outils. Oui. Et ce qu'ils ne supportent pas certains, c'est de se dire on va encore nous accuser de ne pas savoir faire parce qu'ils sont en souffrance devant des enfants dont certains s'immolent, se suppriment ou plongent dans des vies qui sont bousillées. Il faut parler clairement, donc ils savent vraiment ce qui se joue. Et certains n'ont pas envie de regarder cette réalité en face. Donc on leur donne la parole, ils s'expriment très bien. Je trouve juste qu'elle est un peu indécente et déplacée. Ouais. Au vu, je ne dis pas qu'on devrait tous être derrière, mais enfin, s'il y a un sujet qui peut faire consensus, c'est qu'on a des gamins qui souffrent, on sait qu'ils ne parlent pas.
Mélissa Thuriau évoque en fait le tollé chez une partie des enseignants qui a déclenché son clip, des enseignants qui se sont sentis stigmatisés. Et cette affaire, c'est surtout un ratage assez révélateur de la défiance de la profession enseignante. Défiance vis-à-vis du gouvernement, de l'administration, de l'opinion en général. Au risque même d'un déni de réalité sur cette question du harcèlement.
Autre héros de cette année de l'éducation, l'inoxydable Didier Migaud, président de la Cour des comptes.
Le problème, c'est d'en avoir pour son argent. Bon. Que les crédits qu'on consacre à une politique publique nous permettent d'obtenir de bons résultats. On ne peut pas être sur le podium au niveau de la dépense publique et ne pas être sur le podium au niveau des résultats.
L'homme ne manque pas de malice, puisque l'air de rien, il nous apprend cette année encore que oui, le lycée coûte cher, offre trop d'options et que le contrôle continu au baccalauréat permettrait de faire des économies. Mais oui, tout cela en pleine tempête sur la réforme du collège. Un petit côté provoque quand même, histoire de rappeler que les réformes en cours ne sont jamais tout à fait celles qu'il faudrait peut-être.
Enfin, ce qu'on n'attendait pas, les outsiders de l'éducation.
Je pense par exemple au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Thierry Mondon, nommé pour succéder à Geneviève Fioraso, la ministre démissionnée. Avec son image de bosseur et son bon bilan au secrétariat d'État à la modernisation, c'est donc lui qui a décroché le pompon à la barbe de ses concurrents. Le secrétaire d'État ne dispose pas d'énormément de temps pour marquer de son empreinte ce ministère, mais son bilan à 6 mois est sans accroc majeur, sauf quand même sur le budget des universités, insuffisant pour nombre de présidents, et sur la question prudemment éludée des droits d'inscription à l'entrée en fac.
N'oublions pas une héroïne, vous avez voulu la distinguer, Marie-Caroline.
Florence Robine, quand même directrice de l'enseignement scolaire à Cadegesco. Jamais un cadre du ministère ne s'était à ce point exposé sur une réforme, celle du collège. Elle répond aux tweets parfois insultants de ses opposants, entame un tour de France pour expliquer la réforme, enchaîne les plateaux radio et TV, au point de s'inviter sur les pancartes des manifestants, une première. Un engagement risqué, puisqu'à trop incarner des réformes chahutées, on sait bien qu'on peut aussi servir de fusible. Héroïne ou incarnation du mal absolu, c'est une des personnalités de l'année de l'éducation.
Une musique un peu grandiloquente que vous reconnaîtrez peut-être, c'est le générique, le thème bien connu de Superman. Nous parlons de super-héros dans Rue des Écoles à l'occasion de la semaine Héros de France Culture. Nous ne parlons pas de super-prof, hein, mais bien de l'araignée, Batman, des quatre fantastiques et même de fantômettes. Je vous le concède, le sujet n'est pas exactement scolaire, mais ces personnages souvent déguisés, parfois dotés de pouvoirs surnaturels, toujours au service d'un idéal de justice, font rêver les enfants et participent peut-être à leur édification et un peu à leur éducation. Comment ces super-héros sont-ils eux-mêmes éduqués ? Ont-ils fréquenté l'école ? Pourquoi ne voit-on presque jamais leurs parents ? Comment ont-ils appris à se servir de leur super-pouvoir ? La morale des histoires dont ils sont les protagonistes, exemplaires, empreintes de valeurs chevaleresques, est-elle éducative ? Nous avons trouvé, enfin grâce à François Angelier, le spécialiste S-Super-Héros qui peut répondre à toutes ces questions. Je fais enfin pouvoir les poser alors que je n'avais jamais osé. Il connaît tous les super-héros américains et français. Bonjour Xavier Fournier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, scénariste, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Vous avez publié deux magnifiques livres sur les super-héros récemment. Super-héros, une histoire française, un album publié en 2014. Et Les super-héros français, une anthologie qui a été publiée, je crois, à la rentrée. Les super-héros ont-ils une valeur éducative, Xavier Fournier ?
Ben oui, ne serait-ce parce que ce sont avant tout des paraboles, donc tous autant qu'ils sont, ils véhiculent un message, voire plusieurs, qu'il faut bien entendu décortiquer après.
Ces super-héros qui existent depuis à peu près les années 30, dans leur version contemporaine, s'adaptent à toutes les époques. Comment expliquez-vous qu'ils soient si plastiques, sans parler de qualité surnaturelle ?
Ben, si vous parlez des super-héros apparus dans les années 30, on parle des super-héros qui sont propagés dans la bande dessinée. Donc forcément, c'est un genre très visuel, beaucoup plus que la radio. On a dû coller des couleurs dans des revues qui étaient destinées à toutes les couches sociales. Donc ça veut dire imprimer sur des papiers bien particuliers, avec des codes couleurs pas très précis. Ça sous-entendait qu'il fallait des personnages, des couleurs vives. Donc ça veut dire que Superman est pas rouge et bleu. Et pas rouge et bleu par hasard, mais parce que ça procure un contraste qu'on peut voir à peu près sur tous les papiers.
Bien singulier, dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif, il s'envole sur un fil, il fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là.
Un générique français de l'araignée, Spider-Man. Enfin, on dit souvent Spider-Man hein, quand on est en France. Comment ces héros ont-ils traversé l'Atlantique ? Est-ce qu'il y a des particularités à leur adaptation dans notre univers français ?
Eh bien, culturellement, en fait, les super-héros sont apparus partout, à peu près vers la fin du 19e siècle, dans un mode littéraire. Il y en a eu en France, en Italie, en Espagne, il y en a même eu un peu au Japon, et aux États-Unis aussi. Et c'est un jeu d'influence croisée. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on retrouve plein de choses qui viennent de la littérature française dans des super-héros américains. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais...
Allez-y. Par exemple,
il y a une grosse généalogie qui va d'Alexandre Dumas, du Comte de Monte Cristo, jusqu'à Batman. C'est-à-dire qu'on retrouve déjà des éléments de Batman dans le Comte de Monte Cristo et qui vont se réincarner en quelques justiciers.
Lesquels, par exemple
le motif de la vengeance, oui. Le motif surtout, et ce qui à mon sens caractérise le plus le super-héros, c'est pas forcément le super-pouvoir, mais plutôt l'identité multiple. C'est quelque chose qui apparaît dans le 19e siècle. Ça, c'est-à-dire qu'on voit des gens très riches qui s'amusent à passer pour pauvres, pour infiltrer les bas-fonds, et on voit des gens des bas-fonds qui s'amusent à passer pour des richissimes entiers et qui vont faire régner la justice comme ça. Et ça, c'est une forme de héros qui apparaît au 19e et qui se propage pendant le 20e.
Et Xavier Fournier, vous m'avez dit qu'il y avait une citation des Misérables dans Superman. Je n'arrive pas à y croire.
Une citation visuelle, une allusion. Mais en fait, c'est pas forcément volontaire, mais c'est le même archétype. C'est-à-dire que le premier épisode de Superman, Action Comics numéro 1, en 1938, se caractérise par une couverture où on voit pour la première fois ce type-là, que personne ne connaissait à l'époque, avec une cape, en train de soulever une voiture. Alors d'ailleurs, ça avait fait débat chez DC Comics l'éditeur parce que certaines personnes ne voulaient pas sortir ce personnage. Ils pensaient qu'il serait couvert de ridicule, que personne ne voudrait croire qu'un homme puisse soulever une voiture à force de bras. Et or, quand on regarde un petit peu dans la littérature française, il y a un autre personnage qui est considéré comme l'homme le plus fort du monde et qui se démasque à un moment parce qu'il est capable de soulever quelque chose, un véhicule comme ça avec ses bras. C'est Jean Valjean. C'est dans Les Misérables. Il y a ce moment-là où cet ex-détenu est reconnu par le policier qui le traque parce qu'il soulève la charrette avec ses bras. Et quand on relit, ça m'a frappé, quand on relit vraiment le passage, il y a vraiment ce policier qui en gros dit c'est le type le plus fort du monde, il n'y a que lui qui pouvait soulever cette charrette, c'est donc lui Jean Valjean.
Le Superman des Misérables.
Voilà, Superman des Misérables.
Boucher un coin. Alors si on parle de Batman, lui n'a pas de super pouvoir, entre guillemets, mais beaucoup de super-héros en ont, en particulier Superman qui peut voler dans le ciel. Est-ce qu'il y a une forme de retraduction contemporaine de ces personnages qui seraient entre les hommes et les dieux qui peuplent la mythologie ? de milieu et autres.
Il y a clairement une filiation. Superman, on peut faire le rapprochement avec Samson dans la Bible. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, je pense que le surhomme, le super-héros, n'est pas forcément la même chose que ce qu'on peut trouver dans les récits mythologiques, parce qu'il y a ce lien social qui est très fort. Tout à l'heure, je parlais de la fonction riche-pauvre qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Dans plein de récits mythiques, on trouve ça, par exemple, dans les origines d'Arthur, quand Ulysse revient à Ithaque, ça arrive souvent que des héros se déguisent pour infiltrer un château, enfin, mais ça dure une scène. Puis une fois que l'astuce est terminée, on se démasque et on fait reconnaître son droit tout de suite. Les super-héros n'arrêtent pas de jouer aux faibles. Ils reviennent toujours dans les couches qui sont le plus dans le besoin pour compatir avec eux. Il y a un mécanisme qui est très particulier.
Est-ce que la double identité, identité sociale et identité héroïque ou peut-être intime, est un sujet qui parle aux enfants ou à la jeunesse de manière un peu particulière ?
Je pense, parce que ça sous-entend que les personnages peuvent faire les allers-retours dans les deux sens. Ça veut dire que si Spider-Man, sur sa vie privée, est en fait un jeune étudiant pas bien dans sa peau, tout de suite, ça veut dire que des jeunes écoliers vont se reconnaître dans ce personnage-là. Parce qu'on peut espérer faire le chemin dans l'autre sens. Alors finalement, peut-être s'imaginer sous le masque de Spider-Man soi-même.
Alors on parle souvent de la jeunesse des super-héros dans les récits, BD, films. Elle est souvent particulière. D'où viennent les super-héros? Parfois, ils sont nés. Eh bien, tiens, on va l'entendre sur une autre planète comme le plus connu d'entre eux.
Adieu, mon fils. Tu emportes nos rêves et nos espoirs.
Il sera un paria. Ils le tueront.
Comment ? Il sera un dieu pour eux. Et si un enfant rêvait de devenir autre chose que ce à quoi la société le destinait ? Si un enfant aspirait à quelque chose de plus grand ?
Tu es la réponse, fiston. La réponse à sommes-nous seuls dans l'univers.
Si je continue à faire comme si j'étais ton fils.
Tu es mon fils. Je suis persuadé que tu as été envoyé ici pour une raison. Et même si tu y passes le restant de ta vie, tu te dois de découvrir quelle est cette raison.
Des super-héros qui n'ont en général pas de parents ou qui les ont perdus, qui sont éduqués par d'autres gens. Pourquoi ? Quelle est votre explication, Xavier Fournier, vous qui êtes spécialiste des super-héros en général et qui les connaissez
on
tous ?
On peut peut-être rapprocher ces personnages-là des personnages de fables et de légendes. Hein. C'est souvent des orphelins, c'est plus poignant. D'ailleurs, ça tient un peu les enfants au corps quand ils entendent parler d'un enfant qui va être obligé de progresser sans parents. À ce niveau-là, Batman n'est pas si éloigné de Bambi. Il y a des choses comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que c'est quelque chose de très ludique, le super-héros. Donc le jeune lecteur, si on parle des lecteurs les originels des comics, va vite s'identifier avec ce personnage-là avec lequel il veut jouer. Et en général, les enfants jouent mieux quand les parents ne sont pas dans la sphère. Et il y a aussi quelque chose d'initiatique, c'est-à-dire qu'à travers cette situation, à travers le fait de voir Batman, Superman, Spider-Man obligés de grandir sans leurs parents d'origine, il y a cette question de l'enfant, de l'adolescent, plus on avance dans l'âge, qui est de se dire bah, finalement, moi je vais faire comment pour devenir un homme et pour trouver mes marques.
Des super-héros qui se posent sans arrêt la question, c'est une grande question de Spider ou Spider-Man.
Peut-être on peut dire l'homme araignée aussi, ça ira très bien.
Et c'est bien mieux en français. Tous les enfants disent Spider-Man hein, en France. Une véritable parabole de l'adolescence. On va l'entendre avec cet extrait du film. On va entendre Peter Parker et son grand-père.
Mais de quoi est-ce qu'il faut qu'on parle et pourquoi ici ?
Parce que ça fait des siècles qu'on ne s'est rien dit. Ta tante May et moi, on se rend compte qu'on ne sait plus qui tu es. Tu ne fais plus tes tâches. Tu fais toutes ces drôles d'expériences dans ta chambre. Tu commences les bagarres à l'école.
Je n'ai pas commencé cette bagarre, je te l'ai dit, ça.
Mais en tout cas, tu l'as terminé, ça, oui.
Mais j'aurais dû faire quoi ? M'enfuir ?
Non, non, il ne faut pas s'enfuir non plus, mais... Pete, écoute, t'es en train de changer. Je suis au courant, j'ai vécu exactement les mêmes choses à ton âge.
Non, ça, j'en douterais.
Pete, tu entres dans ces années où on commence à devenir enfin la personne qu'on pourra demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Sois prudent avec ce que tu choisis de devenir. Ce gars-là, un Flash Thompson, il mérite sûrement ce que tu as réussi à lui mettre. Mais le seul fait de pouvoir lui casser la gueule ne t'en donne pas forcément le droit. N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité.
Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis ? Je suis Spider-Man.
Un grand pouvoir et de grandes responsabilités. Nous n'avons pas tous de super pouvoirs, mais c'est là un peu une parabole du passage à l'âge adulte, même si c'est assez lourdement exprimé, Xavier Fournier. Cela parle aux enfants ?
Ça parle sans doute aux enfants. Ça a parlé aux enfants. C'est ce qui a fait la réussite de cette bande dessinée-là, qui est apparue dans les années 60 aux États-Unis, mais dans un cadre très particulier. Parce que faut quand même se souvenir que dans les années 60, la jeunesse américaine, elle avait un rapport avec l'autorité qui était en train de prendre un tournant un peu spécial. Et donc, on a ce jeune garçon qui ressemble pas du tout à un hippie, mais qui est un étudiant pas bien dans sa peau.
C'est un élève, on le voit souvent.
Oui, mais qui est complètement déphasé. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout à la mode. Il est même la risée générale de toute sa classe, qu'il torture un peu moralement dès pratiquement la première page de la bande dessinée. Et ce côté outsider, ce côté pas bien dans sa peau, va faire que finalement, la jeunesse américaine va se reconnaître dans ce personnage-là. Pas seulement pour des questions de progression personnelle, mais aussi pour des questions de mode. C'est-à-dire que c'est un jeune héros qui est souvent en butte avec des personnages, on appelle ça des super-vilains, qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père.
Alors déjà, on va s'arrêter sur son identité d'élève. Vous dites un élève malheureux qui se bat, qu'on provoque, qui se fait pratiquement harceler, pour utiliser des mots d'aujourd'hui. C'est un peu la vengeance du faible, une figure rassurante aussi pour les enfants.
D'une manière générale, le super-héros, c'est ça. Il y a quelques exemples de personnages qui sont à fond dans les super-pouvoirs et qui n'ont pas ce talent d'Achille, mais la plupart des super-héros cultivent au contraire ce rapport avec le point faible. C'est ce qui les distingue du surhomme de Nietzsche.
Et vous le disiez, Spider-Man, l'homme araignée, évolue dans un univers scolaire. On voit ses professeurs et ses figures d'enseignants sont utilisées de manière extrêmement... on va dire paradoxal, peut-être, pour des yeux d'aujourd'hui, par les auteurs de la bande dessinée.
La plupart du temps, comme je l'expliquais tout de suite, Spider-Man ou Peter Parker, par le biais du hasard à l'intérieur de la bande dessinée, mais par la volonté des auteurs, se retrouve à affronter beaucoup de gens dans son entourage qui sont devenus des super criminels. Et dans cet entourage-là, il y a un nombre non négligeable de professeurs. Son professeur de biologie se révèle un expert du clonage et bien évidemment prend un costume et il faut l'arrêter. Il s'appelle le Chacal. Et donc, il faut combattre ce professeur-là.
On rencontre souvent des personnages de professeurs dans les bandes dessinées, les films de super-héros ?
Oui, parce qu'il y a toujours un peu la fonction du savant. Peut-être que les fans de Spider-Man, qui au moins connaissent le personnage à l'écran, se souviendront par exemple du Docteur Octopus. Donc il y a toujours ce côté-là, ce côté je fais des expériences, ce côté un peu savant fou. Mais voilà, il faut se souvenir que Spider-Man est né à une époque où la jeunesse américaine prenait un peu ses distances avec l'éducation.
Alors il y a un autre personnage qui s'éduque d'une manière tout à fait singulière. C'est Batman.
We'll be right back.
Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture et nous parlons des super-héros. Super-héros à l'école qui s'éduquent et qui sont aussi des modèles, ou en tout cas des figures rassurantes pour les jeunes, les enfants et les adolescents. Batman, c'est un personnage qu'on rencontre à l'âge adulte. On sait peu de choses sur son enfance, mais petit à petit, quand on avance dans les comics ou dans les films, le spectateur ou le lecteur va en savoir plus sur la manière dont il s'est formé. Et c'est tout à fait particulier, Xavier Fournier.
Bah oui, parce que Batman est apparu dans la bande dessinée en 1939, complètement créé. C'est-à-dire dans le premier épisode, on découvre ce type qui fait régner la justice en s'habillant en chauve-souris. C'était tellement... ça n'avait pas besoin d'expliquer. Ce n'était jamais qu'un justicier déguisé. Et au bout de quelques mois, on s'est dit, mais finalement, ce type-là n'a pas d'origine. Donc, on a inventé un drame familial. Bruce Wayne a perdu ses parents qui ont été assassinés dans son enfance. Et donc,
lui aussi, c'est un orphelin.
Voilà. C'est plutôt la norme chez les super-héros. Et donc, il a décidé de s'éduquer, de se lancer dans une formation pour devenir une sorte de Sherlock Holmes. Alors, quelque chose qui tiendrait de Sherlock Holmes, c'est du ninja, en fait. Et donc, au fur et à mesure des années, on va découvrir tout ce parcours, on va meubler tous les auteurs qui vont arriver après, vont bien entendu imaginer qu'il était au Tibet, rencontrer des lamas, des choses comme ça. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une discipline que Batman n'ait pas été à prendre quelque part dans le monde.
Voilà, une auto-éducation un peu rêvée par les auteurs successifs. De Batman, on peut passer à Fantomette. Ils ont la cape noire en partage et le masque.
Et plus que ça, parce que Fantomette, au début, quand on lit le roman d'origine, était censé vraiment être un personnage habillé tout en noir. C'est l'illustratrice du premier roman qui a tempéré un peu la chose en lui donnant un costume un peu doré. Mais à la base, Fantomette, c'est pas si rigolo et coloré qu'on pourrait le croire. Et dans le premier roman, elle est sur les traces d'un serial killer. Donc pour l'époque, c'est quand même un peu corsé.
Une héroïne du début des années 60, Georges Cholet, c'est l'auteur, en fait une toute jeune fille très savante. D'où sort-elle toutes ses connaissances? Elle connaît presque toutes les langues, elle lit sur les lèvres.
En termes de super-héros, en général, on a un peu les deux extrêmes du spectre. Donc, on a le type super costaud, super fort, qui vole à travers les étoiles, qui a des rayons qui lui sortent des yeux, donc l'archétype de Superman, qui n'a pas besoin de connaître tout, puisque son pouvoir lui permet tout, finalement.
Il est journaliste, hein, Clark Kent, quand même.
Oui, mais c'est une forme de journalisme. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas comment vous travaillez, vous, dans la journée, mais ce n'est pas quelque chose qui lui occupe beaucoup de son temps. On va mettre ça sur le dos de la super vitesse. C'est une forme de journalisme vraiment fantasmé. Hein.
Je n'avais pas pensé à me comparer, à vrai dire.
Et à l'autre bout, vous avez ces personnages humains, en théorie, qui donc sont obligés de ramer derrière, de décupler leurs efforts pour maîtriser, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir. Alors, en même temps, ils ont un pouvoir induit. C'est-à-dire que, bien entendu, des personnages comme Batman ou Fantomette ne sont seulement des athlètes entraînés, mais je déconseille à nos auditeurs d'essayer de se lancer du haut d'un toit, accrocher un filin. Notre corps n'est pas fait pour supporter ça. Batman y arrive très bien, lui.
Oui, c'est toujours bien de déconseiller aux auditeurs, surtout les plus jeunes, de prendre des risques. Alors, on disait pas trop de famille jusqu'à ce qu'arrive, alors assez tard, au début des années 2000, une famille de super-héros. Je pense, à titre personnel, que c'est pour conquérir un nouveau public, le public familial qui emmène les enfants au cinéma.
Monsieur Indestructible, on a besoin de vous.
Ça va faire mal.
Les Indestructibles, sortis en 2004, produits par les studios Pixar, un papa, une maman et des petits-enfants. C'est pour accéder aussi au public, y compris parental, que Pixar nous crée une famille où tout le monde est présenté, y compris la mère. Hein, on va parler des femmes après.
Alors, les Indestructibles, c'est le bout d'un processus qui a commencé là aussi dans les années 60 avec un quatuor de personnages qui s'appelle les Quatre Fantastiques.
Formidable.
Et donc, qui sont quatre astronautes qui sont revenus sur Terre après avoir reçu un bombardement de rayons cosmiques. Et parmi ces quatre-là, il y a un couple. Il y a Mr. Fantastic qui est le leader du groupe et la femme invisible. Et chez Marvel, donc l'éditeur de cette BD-là, on a instauré une forme de chronologie, c'est-à-dire que le temps passe et contrairement à Tintin qui est figé dans un âge éternel d'un album à un autre, les personnages vieillissent un peu. Donc ce qui fait qu'à un moment, le couple se forme de manière officielle. Il y a l'épisode du mariage et puis un peu plus tard, il y a la naissance du premier enfant. Donc les Fantastiques, eux, sont déjà dans ce processus-là qui s'est réincarné pour devenir les Indestructibles qui eux-mêmes caricaturent les Fantastiques.
Ces super pouvoirs sont assez différents, du moins à l'origine, dans les années 60. Les super-héros hommes et les super-héros femmes, les super-héroïnes, n'ont pas les mêmes pouvoirs. Vous disiez pouvoir d'invisibilité. On est plus dans l'autodéfense, la défense chez les femmes. Et c'est aussi les modèles qu'on peut proposer à cette époque aux petites filles.
C'est même pire que ça. Alors juste pour commencer, avant, il y a eu quelques femmes fortes, quelques super-femmes comme Wonder Woman, par exemple.
Inoubliable générique de
Wonder Woman, donc.
Une femme forte.
Et, oui. Et donc, elle est née dans les années 40, au moment où les États-Unis rentraient dans la guerre, et elle tombait à pic pour être une sorte de parabole de la femme qui travaille, qui s'investit dans l'effort de guerre, et ça allait très bien. Ça s'est considérablement calmé une fois qu'on n'a plus eu besoin des femmes au même niveau dans la société dès que la guerre s'est terminée. On est un peu reparti en termes de bande dessinée dans un discours qui était un peu les filles avec leurs poupées. Et apparaissent dans les années 60, tout à l'heure donc, vous parliez de pouvoir défensif, c'est pire que ça. C'est-à-dire que dans les quatre fantastiques, ils sont super forts, ils ont le contrôle de leur corps, ils ont des pouvoirs incendiaires. La fille invisible, se fait oublier. Dans les Avengers, la seule fille de l'équipe s'appelle la Guêpe, elle peut se réduire à une taille microscopique.
Mon Dieu.
Et dans les X-Men, la seule fille de l'équipe qui s'appelle Marvel Girl a donc un pouvoir qui s'appelle la télékinésie. Donc elle peut soulever les objets par la pensée, et dans ces premiers épisodes-là, les objets, c'est souvent des petits outils, des trucs comme ça. Il y a même des épisodes, je crois, où on voit finalement il y a des lecteurs qui écrivent pour se plaindre que ces filles ne servent à rien, qu'il faut les supprimer du magazine, et les membres mâles des Fantastiques sont obligés de répondre aux lecteurs en disant « Non, vous savez, elle a quand même une utilité, c'est quand même un soutien moral ». Donc, on revient de loin là-dessus, dans les années 60. Ça s'est redéveloppé à partir des années 70 et il y a une variété beaucoup plus grande aujourd'hui de super-héroïnes et beaucoup plus autonomes.
Mais avec un certain nombre de stéréotypes qui circulent, on passait le générique de la série Wonder Woman qui date des années 70, fin des années 70. Elle est en bustier et en short et la plupart sont très... sexuées, sexualisées, elles sont aussi sélectionnées sur des critères de beauté physique et plastique absolument évidents.
Dans le contexte des années 70, il y a quelque chose, alors bien entendu, absolument, il y a un rapport avec la sexualité, mais qui cadre aussi avec les libérations sexuelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, beaucoup de militantes féministes disaient qu'il fallait au contraire s'afficher, montrer son corps pour montrer qu'on n'attendait pas l'autorisation de l'homme pour le montrer. Et ça part, on va dire, d'une bonne intention. C'est clair que dès lors qu'on prend un peu de temps, ces super-héroïnes un peu dénudées des années 70, dès qu'on les retrouve dans les années 80 ou 90, ça devient quelque chose de très aguicheur. Mais à l'origine, c'est plutôt quelque chose de revendicateur dans le contexte.
Et aujourd'hui, dans une série qui est très populaire au cinéma, comme les X-Men, quel est le rôle joué par les femmes ?
Alors déjà, il y a quelque chose qui a changé, qui est dans votre phrase, c'est quel est le rôle joué par les femmes. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la femme de l'équipe dans les années 60, et c'était un rôle à part entière. Il fallait une femme et puis cinq ou six bonhommes, et c'était les cinq ou six bonhommes qui faisaient le boulot. Aujourd'hui, ça choque personne de voir une équipe mixte, réellement mixte, avec des femmes, des hommes, des femmes qui ne sont pas toutes les mêmes, qui n'ont pas toutes le même âge, qui n'ont pas toutes la même fonction, qui sont parfois très fortes, qui sont parfois très intelligentes, là où, dans le temps, l'intelligence était le rôle d'un homme, forcément.
Et on va revenir un peu vers la scolarité avec les X-Men.
Professeur, vous aurez du mal à le croire. On m'a envoyé vous trouver depuis le futur, dans 50 ans.
Vous me la refaites encore une fois, s'il vous plaît.
Laissez-moi finir. Au début, les sentinelles ne ciblaient que les mutants. Ensuite, ça a été tout le monde. suis venu de loin pour nous guider, nous rassembler. Les X-Men. On a besoin de vous.
Dites à celui qui vous envoie que je suis occupé.
Celui qui m'envoie, c'est vous.
Les X-Men, qui pourraient être en soi un véritable cours de scénario, tant l'histoire est alambiquée, on n'y comprend rien. En tout cas, à la première vision, quand on n'est pas comme vous, Xavier Fournier, un spécialiste des super-héros. Mais ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle se passe un peu dans un collège, un lycée, si on prend l'équivalent américain. Elle se déroule dans une espèce d'école pour super-héros. Et là, on les voit s'éduquer et se faire éduquer, mais en tant que tel, en tant que super-héros. On les voit apprendre à maîtriser leur super-pouvoir.
Alors, juste un petit truc, parce que quand vous dites on n'y comprend rien, c'est dans la version cinéma où les voyages temporels font que, bien entendu, on a de la difficulté à s'y retrouver. La bande dessinée d'origine, elle est beaucoup plus simple et percutante à l'origine. C'est, on trouve une race. De la même manière qu'il y a les Néandertals et les Cro-Magnons, il y a une nouvelle évolution de l'humanité qui s'appelle les mutants. Et bien entendu, ces pouvoirs vont les mettre au banc de la société, vont créer des jalousies. Et un type qui est un peu le Martin Luther King des mutants se dit, il faut que je fasse une école où j'apprendrai aux mutants à utiliser leurs pouvoirs pour le bien général et à se faire accepter de la société pour que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie. Et donc, au lieu d'avoir un QG comme les Quatre Fantastiques qui ont un immeuble ou Batman qui a sa Batcave, la base où se replient les X-Men, c'est une école, effectivement, où on donne des cours. Alors, là aussi, ce sont des cours fantasmés. Tout à l'heure, on parlait de la manière qu'on a de fantasmer les journalistes dans Superman. Il est clair que quand on voit des cours dans les aventures des X-Men, sont assez peu des cours sur les mathématiques. C'est plutôt des cours pour utiliser ses super-pouvoirs et des choses comme ça. Mais c'est un campus, et un campus qui traite de, finalement, tout ce qui est exclusion. C'est-à-dire qu'au fil des années, on va pouvoir reconnaître dans les X-Men l'acceptation des Blancs et des Noirs, l'acceptation des gays, l'acceptation de toutes les minorités, finalement, se retrouve dans la parabole des X-Men.
Xavier Fournier, vous êtes un spécialiste des super-héros. Vous connaissez aussi bien les super-héros français, relativement méconnus aujourd'hui. Pourquoi est-on si baigné de culture américaine ? Pourquoi méconnaît-on ces super-héros qui sont après tout assez anciens aussi chez nous ?
Les super-héros sont apparus, je disais tout à l'heure, des deux côtés de l'Atlantique de manière synchrone. Se sont auto-influencés les uns et les autres. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez particulier à la Libération. C'est que pour plein de raisons politiques ou philosophiques, ça dérangeait des penseurs, ces personnages-là. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, il y avait des gens qui trouvaient que le super-héros dans la jungle, tel que le fantôme du Bengale, volant au secours des indigènes, c'était pas bien. C'est absolument pas que le super-héros aille copiner avec des Noirs. Et il y en avait d'autres qui trouvaient que c'était colonialiste. Et donc, il y a eu une espèce d'entente sacrée pour dégommer ces personnages-là. Et quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il est malade. Donc, on a dit que ces personnages-là venaient forcément d'étrangers pour nous coller des mauvaises idées dans la tête.
Ah, mais c'est la culture yankee dans l'esprit de beaucoup, les super-héros.
Sauf que du coup, les auteurs qui faisaient des personnages français se retrouvaient accusés finalement d'être aux ordres de la pensée étrangère. On a étouffé la production locale, ne laissant que les super-héros américains. Il y avait des dizaines de super-héros français. Il y en a même eu qui ont fait l'objet de films. Dès les années 1911-1914, il y a eu des films muets. Il y a un truc qui date de 1921 qui s'appelle L'aviateur masqué. Et donc, c'est un justicier masqué à bord d'un biplan. Il y a des choses comme ça. Et il y en a des centaines dans toutes les disciplines qu'on peut imaginer. Bande dessinée, roman, film, sans doute dans les feuilletons radio de l'époque. Je suis loin d'avoir tout retrouvé. Et puis, à un moment, ça s'est arrêté parce qu'on s'est tous convaincus que ça venait d'ailleurs. Donc, on a étouffé le super-héros français.
Reste un héros qui n'est pas un super-héros, même si parfois, il a de super pouvoirs. Une perle ou presque, un générique de dessin animé adapté d'Astérix qui date des années 80. Il est signé Plastic Bertrand. Astérix, finalement, c'est un super-héros français qui incarne la France, son histoire, des valeurs de résistance, des valeurs assez cocardières. Il fallait plus un super-héros comme ça à la France pour qu'on s'identifie plus tranquillement et sans querelle.
Je pense que ce n'est pas un super-héros, je pense que c'est un surhomme. Il y a une petite distinction. C'est effectivement un personnage avec un super-pouvoir. Qui est très comique et très agréable. Simplement, on n'a pas ce rapport social. Il y a plutôt quelque chose qui est dans la matérialisation du côté effectivement franchouillard et puis la résistance à l'envahisseur. Alors finalement, pas si longtemps que ça après la guerre, on comprendra pourquoi. C'est pas un super héros, mais en même temps, je pense que les auteurs ont été aussi loin qu'ils pouvaient aller à ce moment-là dans cette idée-là. Je pense que les pressions morales de l'époque auraient sans doute pas accepté que ce soit un justicier à la Batman.
De même qu'un nouvel épisode d'Astérix est sorti à l'automne, les super-héros se portent bien. Des films sortent chaque année, adaptés de Marvel et autres marques. Je ne les connais pas toutes, Xavier Fournier. Comment expliquer la vitalité de ces mythologies ?
Il y a vitalité, il y a vitalité et vitalité. Il y a une vitalité au cinéma, mais il y a ce que j'appelle le syndrome de James Bond. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de super-héros au cinéma, mais il y a un moment où le public perd un peu la base. Et si je prononce le mot de James Bond, plein de gens spontanément ont pensé cinéma. Parmi notre audience, quelques personnes ont pensé effectivement que James Bond est un personnage de roman à la base. Et sur ces quelques personnes, combien ont vraiment lu les romans ? Donc il y a une vitesse de libération. Tout à l'heure, on a écouté le générique de Wonder Woman. Wonder Woman est un personnage qui est connu internationalement, qui symbolise plein de choses pour plein de lecteurs, de lectrices. En même temps, si je vous demandais quel est le super vilain attitré de Wonder Woman, la plupart des gens ont un blanc à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas lu un épisode de Wonder Woman. Donc la vitalité du super-héros passant par les films, c'est un fait, ça aide à les faire connaître. De la même manière que la vitalité des Trois Mousquetaires peut passer par un film. Mais est-ce que ça fait forcément reconnaître l'œuvre d'origine ? C'est pas dit.
Ah, et je confirme qu'il faut encore lire le texte d'Alexandre Dumas. Est-ce qu'on invente encore des super-héros aujourd'hui, Xavier Fournier ?
Oui, on n'arrête pas d'en inventer. D'abord parce que, visiblement, il y a un poids économique. C'est-à-dire que les super-héros sont...
Le marché de l'entertainment, voilà, est un marché énorme aujourd'hui.
Ce n'est pas par hasard si Disney a racheté Marvel. DC Comics, donc, qui est l'éditeur de Batman et de Superman, a été racheté depuis encore bien plus longtemps par Warner. Et voyant ça, tous les conglomérats un petit peu liés à l'industrie des loisirs se dépêchent de signer tout ce qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, je parlais il n'y a pas très longtemps avec un auteur indépendant qui a quelques personnages à son actif et qui m'expliquait que même ces personnages-là qui sont assez mineurs, on est venu le démarcher pour signer des options parce que tout le monde veut signer ce qui est disponible, encore disponible pour l'instant.
Parce que ça marche, ça plaît au public, ça rapporte de l'argent.
C'est à la mode.
Dernière question, Xavier Fournier, pourquoi vous qui êtes adulte et bien adulte, vous êtes en face de moi, pourquoi vous intéressez-vous encore aux super-héros ? Pourquoi autant d'adultes s'y intéressent aujourd'hui, vont voir ces films, lisent des bandes dessinées ou des comic books, alors qu'ils ont largement passé l'âge, puisqu'au départ, ces productions s'adressaient à des enfants et de jeunes adolescents ?
Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge. Parce que, tout simplement, il y a des niveaux. Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute des histoires de super-héros qui sont un peu bébêtes, qui sont un peu premier degré. Et puis, il y en a d'autres qui ont plusieurs degrés, qui sont des vrais sujets de sociologie. On peut retrouver Captain America faisant des allusions à Reagan ou à Nixon. Et on peut sans cesse les redécouvrir. Donc, effectivement, on pourrait me dire, par exemple, pourquoi vous lisez l'Odyssée ? Parce que ces histoires de démons, de cyclopes, de sorcières, ça n'existe pas. Mais ça serait s'arrêter au premier degré. Et là, visiblement, il y a des gens qui s'intéressent à cette continuation de la parabole. Il y en a d'autres, il ne faut pas se voiler la face, qui sont dans un rapport avec la nostalgie, qui redécouvrent un petit peu leurs jeunes années à travers les films et les bandes dessinées. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'âge.
Quels seraient vos conseils pour les grands-parents et parents qui nous écoutent en matière de super-héros ? Lesquels sont les plus éducatifs, les plus intéressants et peut-être aussi les plus amusants, Xavier Fournier ?
Ça dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais je pense que certaines choses liées aux anciens films de Superman, peut-être parce que les nouveaux sont un peu, c'est un peu beaucoup de combats. Certaines choses liées, par exemple, au Batman de Tim Burton. C'est relativement intemporel. Mais après, voilà, j'en reviens à mon analogie, c'est des films de voitures. si vous me posiez la question, dans les films de voiture, il y a Cars et il y a Fast and Furious. Si vous montrez un enfant Fast and Furious, vous avez besoin de consulter d'urgence. Hein, et ben là aussi, on peut très bien montrer le vieux feuilleton télé de Batman des années 60, qui, je pense, pour les enfants, va très bien. Et on ne va pas aller leur montrer le Batman de Christopher Nolan, parce que sinon, c'est vraiment trop noir. Donc, c'est une question de tonalité, de contexte.
Dernière question, question subsidiaire. Quel est votre super-héros préféré ?
Ah, mais on me pose souvent la question, mais moi je suis polythéiste. Si je refuse de partir sur une île déserte avec un seul comic book, mais il m'en faut beaucoup, il m'en faut une caisse. Donc là c'est pareil. Je pense que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger plusieurs plats. Et bien là, c'est pareil. Pour les super-héros, il faut comparer plusieurs optiques.
Donc pas un super-héros, plutôt un panthéon. Une adaptation du générique de Spider-Man, un de mes super-héros préférés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à 17h pour une émission sur la mémoire dans Rue des Écoles. Pour l'heure, vous retrouvez Gilles Kepel en compagnie de Mathilde Wagman. À 18h, ce sera le journal de la rédaction. À 18h20, Olivia Gesbert. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France Culture.